Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Cette semaine, pour intervenant au micro, je reçois François Brunato. Bonjour.
Bonjour.
Marié et père de deux enfants, chef d'entreprise, vous vous consacrez depuis plusieurs années maintenant à faire connaître cette figure, grande figure de sainteté de Padre Pio qui fut canonisé sous le pontificat de Saint Jean-Paul II. C'était le 16 juin 2002. Vous avez travaillé aussi sur l'adaptation en français d'un film sur Padre Pio et j'ai devant mes yeux ce livre écrit par votre père, Emmanuel Brunato, Padre Pio, mon père spirituel. C'est le destin extraordinaire de ce premier fils spirituel, de ce premier prêtre stigmatisé. Padre Pio était bel et bien le premier prêtre stigmatisé, François Brunato.
Alors, il paraîtrait.
Les mots sont posés.
Qu'il y a eu un autre prêtre. Qui aurait été stigmatisé. Maintenant, je pense que, oui, dans l'histoire, on dit que c'est le premier prêtre stigmatisé de l'histoire de l'Église. Je dirais que, en tout cas, s'il n'est pas le premier, je dirais chronologiquement, je pense qu'indéniablement, il est le premier spirituellement parlant. Donc là, il n'y a aucun doute sur la question.
Alors, il y a aussi une histoire en introduction pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas et ne connaissent pas Emmanuel Brunato, qui était votre père. Une histoire particulière, une histoire qui vous lie à tout jamais, vous, François Brunato, avec cette grande figure de sainteté, Padre Pio. Emmanuel Brunato, quelle est cette histoire et ce lien avec Padre Pio? Un lien qui commence, je crois, en 1920 avec une rencontre forte et particulière.
Une rencontre tout à fait avec le Padre Pio. Vous savez, la bibliographie de Padre Pio, on dit qu'il y a plus de 600 ouvrages. Et on retrouve effectivement différents témoignages de personnes qui l'ont approché. La particularité, c'est qu'effectivement, mon père va rencontrer Padre Pio en 1920, donc on va fêter l'année prochaine le centenaire de leur rencontre. Et avec toujours donc ce qui est raconté souvent dans les témoignages de rencontres, c'est avec la particularité, le Padre Pio fait venir les gens à lui. Alors, c'est-à-dire que c'est un peu curieux d'ailleurs, mais les gens à un moment donné vont sentent comme un appel. Alors l'appel, pour mon père, il va lire un article, il est à Naples à l'époque, il lit un article, c'est le premier article d'un journal comme ça qui parle d'un saint stigmatisé, enfin d'un moine stigmatisé qui fait des miracles. Voilà. Et mon père va dire, je dois le rencontrer. Il va le rencontrer, et alors que finalement rien ne le destinait forcément, je dirais a priori, de venir faire cette rencontre. Mais et ben voilà, il va être attiré là-bas, et ben c'est le choc, comme souvent dans cette rencontre, parce que c'est la rencontre du saint et du pécheur, à tel point qu'effectivement, quand il va écrire cette autobiographie, il se dénomme lui-même le publicain. Et parce que mon père se présentait souvent comme le plus grand pécheur converti par Padre Pio. Donc oui, une rencontre qui laisse des traces, comme toujours cette rencontre. Enfin, est-ce que c'est pas toujours aussi une rencontre avec un saint qui laisse des traces, hein? Mais bon, ça c'est peut-être simplement aussi, quand on s'approche du Christ, ça laisse des traces.
Quel lien entre ce père, Emmanuel Brunato, vous le perdrez, vous serez encore bébé, un bébé de 9 mois, voilà, vous n'avez pas connu, vous n'avez pas été bercé dans les bras de Saint Padre Pio à l'époque?
Ah non, ben moi je suis né en 1964, mon père est né en 65 et le Padre Pio, et mon père est né, est mort en 65 et le Padre Pio, lui, en septembre 68. Mais Voilà, il n'y aura pas de rencontre, je n'aurai pas de rencontre personnelle avec le Padre Pio, même enfant.
Alors, vous évoquez cette rencontre dont vous allez fêter l'an prochain le centenaire de la rencontre entre votre père et celui qui a été canonisé en 2002 sous le pontificat de Jean-Paul II. Votre père vivra, et ça c'est un petit peu la particularité, pendant 3 ans dans ce couvent où vécut Padre Pio. Son voisin, c'était Saint Padre Pio. Alors, expliquez pour les auditeurs qui connaissent peut-être l'histoire de Padre Pio de loin, l'histoire d'Emmanuel Brunato dans cette cellule, dans ce couvent, aux côtés d'un grand saint, Padre Pio. Qu'est-ce qui se vit pour lui durant ces 3 ans?
Déjà, on a parlé de la rencontre qui était foudroyante. Mon père écrira comme ça qu'au départ, là. D'ailleurs, cette rencontre va être ponctuée tout de suite par une confession, parce que souvent quand on s'approchait du Padre Pio et de sa rencontre, il fallait venir faire le ménage un petit peu, donc ça va être quand même la confession déjà qui va être permettre de remettre un peu les pendules à l'heure, si je peux m'exprimer comme ça. Après, effectivement, mon père va être très attaché, alors pas au côté sensationnel, ils ont 5 ans d'écart. Donc, il y a quelque chose qui va les unir. Alors, c'est quelque chose qui est, voilà, un lien de cœur qui va se passer. Mais l'arrivée de mon père au couvent va se faire de la manière suivante. C'est que le Padre Pio va dire... Mon père venait au couvent un petit peu régulièrement. Et le Padre Pio dira au père gardien un jour, bah, écoute, Emmanuel, donc mon père, va être malade, il va être alité pendant 10 jours, fais-lui une place s'il te plaît dans la cellule voisine de la mienne. Et donc mon père va ce jour-là rester au couvent, enfin effectivement prendre la cellule d'à côté, sera bien malade et alité pendant 10 jours, mais il y restera 3 ans en tant que laïc. Et c'est cette histoire effectivement qui est extraordinaire, parce que j'en ai parlé au père gardien donc du couvent de Saint Giovanni aujourd'hui, et le père gardien me dit c'est quelque chose qui serait aujourd'hui totalement impossible comme ça, de rester un laïc comme ça, de rester comme ça en permanence sans avoir une vocation particulière, il n'y aurait pas cette possibilité. Donc même ça, il y a un petit, ce que l'éditrice appelle un clin d'œil, il y a quand même quelque chose qui, c'est-à-dire que il a été un peu appelé, il a été guidé comme ça, et le Padre Pio l'a accueilli, voilà, et mon père va être un peu son, il le décrit comme un, effectivement un peu son homme à tout faire, il va être celui qui va être son servant de messe, celui qui va faire et ben, tout ce que le Padre Pio lui demandera de faire, et des choses qui... Mais... Vous savez, on parle de la foi qui fait bouger les montagnes, n'est-ce pas ? Qui serait capable de déplacer les montagnes, mais c'est un peu ça. Le Padre Pio va lui demander, bah tiens, il y a une fresque à refaire, alors voilà, qui va se mettre artiste peintre. Il y a les enfants de l'école, donc qui avaient besoin d'avoir un maître, et bah, il va être maître d'école. Et puis il y a la maison de Maria Pyle qui va être à construire, et bah, il va se mettre comme architecte dessus. Il va y avoir le couvent de Pietrelcina, pareil. Donc il y a quelque chose, et mon père va agir toujours en confiance. Et alors il écrira d'ailleurs quelque chose de particulier, c'est qu'un jour le Padre Pio va lui dire « monte en haut de cet arbre ». Et c'était un arbre qui était un arbre mort, qui était que tout le monde pensait qu'il allait finir par terre. Et le Padre Pio lui dit « monte en haut de cet arbre ». Et mon père il dit « bah non mon père, vous avez vu l'état de l'arbre, je vais pas monter. Hein. Monte en haut de l'arbre, en haut de cet arbre ». Ben non, bonne excuse. 3 fois, il lui dira de monter en haut de cet arbre. Et mon père dira que c'est la seule fois qu'il a désobéi au Padre Pio. C'est pas sans nous rappeler déjà quelques paroles pour tester la foi du disciple, n'est-ce pas ? Mais donc, voilà, il a grande confiance au Padre Pio, mais ça le marquera quand même après pour toute sa vie. Mais ça n'empêche, voilà, que un témoignage entier, mais qui est passionnant, parce que le témoignage de mon père, c'est pas le témoignage de l'homme en tant que tel, parce que bien sûr il va vivre quelque chose que personne ne vivra comme lui. c'est indéniable. Mais c'est aussi, il va découvrir toute cette humanité du Padre Pio, c'est-à-dire au-delà de ce qu'on peut raconter ou ce qu'on peut voir de cette image. Pratiquement, on voit beaucoup d'images du Padre Pio, c'est pratiquement un vieil homme grabataire. Enfin, c'est souvent les images qu'on présente. Alors que le Padre Pio, c'est tout. Sauf, bien sûr, dans ces dernières années, il va être âgé, il va avoir le poids des années. Mais oui, dans les dernières années, mais par contre, là, on est en 1920, il a toute cette joie, ce cœur tourné vers les autres, toute cette sensibilité, quoi.
Merci pour ces premières minutes d'intervention autour de cette figure de Saint Padre Pio, canonisant 2002, et celle de votre père, Emmanuel Brunato, et cette biographie sur Padre Pio qu'il avait écrite, intitulée Padre Pio, mon père spirituel, et ça relate ce destin extraordinaire de cette grande figure de sainteté. François Brunato, je vous donne rendez-vous demain, à la même heure. Nous poursuivrons un peu ce chemin aussi d'accompagnement, d'amitié avec cette figure de la sainteté de Padre Pio demain. Merci.
Merci.